Europe 1. Europe 1.
C'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï.
Mickaël Darmon, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes journaliste, vous l'avez été à TF1, à France 2, à Europe 1, et aujourd'hui vous publiez Le Pape et la Matriarche chez Passé Composé, c'est sous-titré Histoire secrète des relations entre Israël et le Vatican. Mais il s'agit d'abord du récit d'une rencontre peu connue entre Paul VI et Golda Meir, première ministre de l'État d'Israël. C'est elle la matriarche. Alors pourquoi cette entrevue du 16 janvier 1973 revêt-elle une telle importance à vos yeux ?
Et aussi aux yeux d'ailleurs des relations entre ces deux États, parce que ce sont effectivement deux dirigeants au sommet qui se rencontrent pour la première fois. C'est d'abord une rencontre inédite sur le plan historique, c'est la première fois qu'un pape reçoit en audience au Vatican un dirigeant de l'État d'Israël. Il se trouve que c'est Golda Meir. Ce sont deux dirigeants qui sont au sommet, on va dire, de leur notoriété, parce que c'était quand même deux rockstars du XXe siècle.
On est juste avant la guerre du Kippour.
On est neuf mois, on est le 16 janvier, 73. Personne ne sait encore, effectivement, et encore moins en Israël, à quelle manière la vie va basculer dans le pays. Mais là, il y a un enjeu pour Golda Meir qui est de continuer à essayer de briser l'isolement diplomatique d'Israël. C'est un travail qu'elle a mené régulièrement depuis qu'elle est dans les ministères puis à la tête du gouvernement, notamment en Afrique. Et réussir à pouvoir rencontrer celui qui dirige en fait les consciences de plus d'un milliard d'êtres humains, c'est un enjeu considérable pour ce petit État qui est fasciné également par le Vatican. L'État d'Israël et le Vatican se fascinent mutuellement parce que ce sont deux petits États timbre-poste, on va dire, à l'échelle géographique, mais qui ont une aura d'autorité morale qui dépasse largement leurs frontières, qui ont tous les deux le culte du secret et qui sont les dépositaires de la matrice de l'histoire judéo-chrétienne. Et voilà qu'ils n'ont pas de relations diplomatiques, et c'est ce que vient entre autres chercher Golda Meir pendant cette audience qui va être une disputation au sommet de l'histoire.
Vous dites également pour ce qui fait qu'ils se ressemblent, l'État d'Israël et le Vatican, c'est qu'ils ont d'excellents services de renseignement.
Ah oui, le Vatican c'est l'un des plus grands et des plus importants services de renseignement au monde, parce qu'imaginez-vous que chaque prêtre au fin fond de la forêt amazonienne envoie ce qui se passe autour de lui à sa hiérarchie, qui transmet à la hiérarchie, et ça arrive au Vatican. Et ça, les Israéliens en sont extrêmement conscients, parce qu'évidemment, ils sont aussi très férus et ont besoin ont développé un service de renseignement qu'on connaît, et ils sont fascinés par cela. Et il y a cet enjeu de la guerre froide. Paul VI est le pape de la guerre froide. Le Vatican est un terrain de bataille en coulisses féroces entre le KGB et la CIA, parce qu'il fallait au lendemain de la guerre juguler, repousser la possibilité que les communistes prennent le pouvoir en Italie. Et bien évidemment, le Mossad regarde ça avec beaucoup d'intérêt et se dit, il y a un moyen, il faut trouver une place. Et c'est une des raisons également pour lesquelles Golda Meir est contente et enthousiaste à l'idée donc d'arriver au Vatican devant Paul VI.
Vous racontez, Mickaël Darmon, que dès 1904, Théodore Herzl, le fondateur du mouvement sioniste, a rencontré le pape Pie X. Mais qu'est-ce qui les opposait à l'époque ?
La théologie, le peuple déicide, le dogme qui posait comme, on va dire, structurant et au cœur du catéchisme, le fait que c'était les Juifs qui étaient donc responsables de la mort de Jésus, vendu aux Romains. Et de ce point de vue-là, c'est à cause de cela. D'ailleurs, le pape dit à ce moment-là à Théodore Herzl, les Juifs n'ont pas voulu reconnaître Jésus, on ne peut pas reconnaître votre projet sioniste. Et s'installe comme ça une tradition de rencontres, souvent d'ailleurs abrasives, entre les papes et les dirigeants du mouvement sioniste. Et puis arrive Jean XXIII et Paul VI. Et c'est le grand chantier de Vatican II, la grande révolution théologique et doctrinale qui élimine du catéchisme, de la doctrine et du discours la notion de peuple déicide. Et c'est un véritable, une grande révolution et une bascule complète. À partir de là, la politique peut-être reprendre ses droits. C'est ce que, entre autres, Golda Meir vient faire valoir auprès de Paul VI.
La réconciliation entre les chrétiens et les juifs, elle a été scellée effectivement en 1900. 1965, hein, précisément, par Vatican II, le peuple juif n'était plus un peuple déicide. Alors effectivement, c'est ce qui va permettre cette rencontre entre Golda Meir et Paul VI, mais sur quoi tombent-ils d'accord et sur quoi sont-ils en désaccord ?
Alors ils sont en désaccord d'emblée sur justement la politique de l'État d'Israël vis-à-vis des Palestiniens, vis-à-vis du monde arabe. Nous sommes après 67, nous sommes après la guerre des Kippous de six jours, qui a vu comment de manière voilà extrêmement rapide, cette victoire éclair de la guerre des six jours, qui a montré au monde les prouesses de ce jeune État d'Israël, mais avec une conséquence, c'est qu'il y a l'occupation par l'armée israélienne dans les territoires de Cisjordanie et de Gaza, et en particulier le contrôle des lieux saints, qui jusqu'à présent étaient sous le contrôle de la Jordanie, et qui depuis la guerre 67 passent sous le contrôle d'Israël, notamment avec la vieille ville de Jérusalem, bien sûr, et tous les lieux saints. Et là, ça change la donne, parce que le Vatican est obligé d'avoir des relations à tout le moins technique pour la gestion des lieux saints, sans reconnaître politiquement. Donc d'emblée, il y a ce reproche qui est adressé par Paul VI à Golda Meir, qui elle n'avait pas sa langue dans sa poche, qui tout de suite réplique en disant, vous savez, moi je suis une enfant des pogroms à Kiev, c'est pas vous qui allez me donner des leçons. Et ça part comme ça pendant un bon moment, et après ça s'apaise, et tous les deux conviennent, et le disent pratiquement d'ailleurs de manière pratiquement ensemble, que cette rencontre a un caractère historique.
Mais c'est seulement à partir de 1993, donc 20 ans plus tard, qu'Israël et le Vatican commenceront à entretenir des relations officielles en s'échangeant des ambassadeurs. Pourquoi si tard ?
Parce que d'abord, l'agenda du Vatican, c'est l'éternité. Hein. Donc,
elle l'a dit d'ailleurs, voilà. Elle a dit ça, l'horloge du Vatican n'est pas la même que celle des autres.
Parce qu'effectivement, le pape lui répond, elle lui dit reconnaissez l'État d'Israël, et il lui dit ça n'est pas encore le temps, ça n'est pas encore le moment, et elle dit voilà, effectivement, le temps du Vatican n'est pas le temps de l'histoire du monde. Mais effectivement, ça prend 20 ans, c'est-à-dire au fond quelques minutes, le temps que des relations très particulières, officieuses, secrète se noue entre le Vatican et l'État d'Israël, avec des services rendus, des manières de coopérer sur des tentatives d'attentat que le Mossad désigne, prévient en disant voilà, le pape Paul VI est menacé, donc il y a des retours d'ascenseur, et arrive Jean-Paul II. Arrive d'abord Jean-Paul Ier. Il faut savoir que Jean-Paul Ier, dans son programme pontifical, avait l'intention de reconnaître politiquement l'État d'Israël. Il était 33 jours au pouvoir. Jean-Paul II avait un agenda géopolitique qui était philosémite. Lui, il décide effectivement de reconnaître officiellement l'État d'Israël.
On fait une pause, Michaël Darmon, et vous allez nous raconter ça. Michaël Darmon publie donc « Le pape et la matriarche chez Passé Composé ». C'est l'histoire secrète des relations entre Israël et le Vatican. Vous nous parliez du pape Jean-Paul II, le pape polonais. Et c'est une ironie que ce soit un pape polonais donc qui ait permis enfin qu'il y ait des relations officielles entre Israël et le Vatican.
Oui, l'adage « rien ne se passe comme prévu », c'est encore vérifié aussi sur ce terrain. C'est vrai que lorsqu'il est nommé, il y a un scepticisme chez les Israéliens, au sein de l'exécutif israélien, au sein des services de renseignement, en disant « c'est pas avec lui, étant donné le passé des Polonais et la Shoah, que l'on va arriver à quelque chose ». Or, en fait, c'est une erreur, parce qu'en réalité, dans son histoire, Paul VI, l'ancien donc cardinal Wojtyla, eh bien, était très philosémite, avait eu des relations avec la communauté juive, et il arrive aussi avec, on le sait hein, maintenant, bien sûr, avec un agenda géopolitique. Il est le pape de la fin de la guerre froide. Tous les papes ont été traversés par les grandes secousses de l'histoire. Paul VI, c'était le fascisme. Jean-Paul II, c'était la fin de la guerre froide. François, c'est entre autres Daesh, l'État islamique et le terrorisme. Et donc, en fait, lui, c'est la fin de la guerre froide et il y participe, comme on sait. Dans ce contexte-là, renouer des relations politiques, diplomatiques avec l'État d'Israël lui semble important. Et donc, il désigne une équipe de négociateurs plus ou moins discrets que j'ai retrouvés, qui sont encore vivants pour la plupart au Vatican, et également du côté de l'État d'Israël, il y a des négociateurs, des artisans qui viennent, qui commencent à parler officieusement dès 92 avec les prélats du Vatican pour arriver à un accord, l'accord fondamental de 1993, et le premier échange d'ambassadeurs en 1994, ça fait 30 ans.
Alors on dit que rien n'oppose a priori le Vatican et l'État d'Israël à partir du moment où la question du peuple déicide a été réglée par Vatican II. Néanmoins, il y a le statut de Jérusalem, qui est une ville sainte pour les Juifs, pour les chrétiens, pour les musulmans. On se souvient que le Vatican a signé en 2000, hein, un accord avec l'OLP sur l'avenir de la ville, réclamant un statut spécial internationalement garanti, ainsi que la liberté d'accès et de culte, et qui déclare moralement et juridiquement inacceptable toute décision unilatérale modifiant son caractère spécifique et son statut.
Absolument.
Donc là...
Alors ce sont des divergences, bien sûr, ce sont des divergences. Bien évidemment, la gestion des lieux saints, la ville de Jérusalem, pour le Vatican, c'est très important, mais bien sûr, c'est quand même, ils sont voisins de palier de l'histoire avec Israël, donc c'est sûr. Mais quand on regarde précisément aussi, effectivement, les arguments et les mots, le fait que le Vatican plaide pour une cité à Jérusalem internationalement reconnue et non pas une cité internationale, c'est là que ça discute depuis des années. Vous voyez,
on en est là. C'est ça la diplomatie.
Absolument.
Une question de mots.
La diplomatie, l'exégèse et le Talmud, vous voyez ce que ça donne comme capacité de pouvoir jouer avec les mots et les lettres. Donc ça, c'est effectivement un moment important. Et puis, vous avez aussi l'approche, on va dire, structurelle de la part, effectivement, de la chrétienté chez les catholiques, où on est spontanément, on va dire, du côté des faibles, du côté des opprimés, du côté de ceux qui n'ont pas la force. Et dans cette région, ce sont les Palestiniens. Il y a beaucoup de Palestiniens chrétiens qui souffrent à la fois des affres de l'occupation pendant des années, mais également de l'islamisme, et qui à la fois disent à l'État d'Israël et disent au Vatican, aux autorités ecclésiastiques, on est coincé. Donc de ce point de vue-là, il y a ce soutien aussi naturel aux Palestiniens, et donc il y a des zones de friction assez régulières avec l'État d'Israël. Mais récemment, là, le pape François a pris plusieurs fois des positions depuis les massacres du 7 octobre, et il condamne régulièrement le Hamas, tout en disant il faut un cessez-le-feu, il faut que les otages soient libérés. Donc on a aujourd'hui une position, équilibrée, entre guillemets, en tout cas qui prend en compte l'ensemble des souffrances humaines de la région.
Mais vous dites dans votre livre, Michael Darmon, que le Vatican a cessé de préconiser la solution des deux États pour mettre fin au conflit israélo-palestinien. Alors qu'est-ce qu'il propose aujourd'hui ?
Alors ça, c'est une des découvertes, effectivement, je prends conscience de cette découverte et de cette évolution dans les couloirs du Vatican durant l'enquête pour ce livre, où des proches du pape François me disent en fait la solution à deux États, elle est abandonnée parce que le fait israélien étant tellement maintenant ancré, on ne peut pas arriver à cette dimension. En revanche, il faut travailler sur l'égalité des droits, ce qui provoquera d'autres débats, bien sûr. Mais cette notion de deux États est considérée au Vatican comme étant obsolète. On s'aperçoit et on voit que c'est encore un mantra diplomatique dans les chancelleries, mais au Vatican, on considère qu'elle n'est plus viable et qu'il faudra être créatif et évoluer vers une autre forme d'égalité, de manière à pouvoir un jour trouver
de type confédération,
je ne sais pas, il faudra être... Vous savez, après les accords d'Oslo, il y avait beaucoup de créativité qui était à l'œuvre. On avait aussi beaucoup réfléchi, à la fois du côté des Israéliens et des Palestiniens, sur le modèle de Jérusalem calqué sur celui de Bruxelles, qui permet de pouvoir gérer plusieurs types de statuts en même temps. Et il y avait une volonté. En fait, on s'apercevait que lorsqu'il y avait une volonté de trouver un chemin, eh bien on avait envie de d'y arriver. Malheureusement, c'est une fois de plus la tragédie des processus de paix à œuvrer dans cette région. On ne sait pas encore pour combien de temps.
C'est un sujet peu connu, Michael Darmon, hein, les relations entre l'État du Vatican et l'État d'Israël. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné quand vous êtes plongé dans cette enquête? Qu'est-ce que vous avez découvert de plus étonnant?
D'abord, la pérennité et la puissance de ce texte Nostra Aetate, qui a posé la fin du dogme du peuple déicide, qui s'est transmis de pape en pape, je dirais, sans coup férir, hein, avec des moments extrêmement forts. Encore, on le voit aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui a vraiment structuré, qui structure aujourd'hui le dialogue judéo-chrétien, qui malgré toutes les vicissitudes existe et est puissant, et peut-être justement vecteur d'espoir. L'autre chose qui m'a beaucoup étonné, eh bien, c'est de visiter ou de revisiter le pontificat de Paul VI. En réalité, c'est lui le premier pape moderne. C'est lui qui a posé les jalons, les canons du pèlerin planétaire. C'est lui le premier qui monte dans un avion de toute l'histoire. Jamais les papes n'avaient pris un avion.
C'est lui qui commence à voyager.
C'est lui qui commence à voyager. C'est lui qui commence à être effectivement le pèlerin planétaire. Autant de catégories, de modes de fonctionnement que Jean-Paul II reprendra avec son charisme. Mais c'est lui qui a porté ça, qui a porter cette révolution, je dirais, dans l'histoire entre ces deux peuples.
Merci Michaël Darmon.
Merci.
Le pape et la matriarche, c'est paru chez Passé Composé. Et l'on a maintenant rendez-vous avec un historien, c'est Olivier Grenouillot qui sort une nouvelle collection, La Bibliothèque a remonté le temps.